Bonjour à tous, c'est le sixième épisode de Nature Aventure Survie, le podcast.
Nature
Aventure
Survie.
Les techniques de survie et de bushcraft que l'on étudie de nos jours sont directement héritées de celles de nos ancêtres. Mais quand on parle de nos ancêtres, il faut parfois réexpliquer ce qu'a été l'évolution de l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un spécialiste de la préhistoire.
D'abord, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio.
Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bomba.
Ouais.
Wilson! Wilson!
Bonjour Jean-Luc Rieux.
Bonjour.
Vous travaillez au musée d'archéologie d'Île-de-France, c'est ça?
Je suis responsable du service des publics. Donc au musée de préhistoire d'Île-de-France, à Nemours, qui est un établissement qui appartient au département de Seine-et-Marne, mais qui a pour vocation de présenter la préhistoire de la région Île-de-France.
Donc vous présentez la préhistoire un petit peu au public, c'est ça?
Tout à fait, oui. J'ai un rôle à la fois d'organisation d'événements et d'assurer des visites et des ateliers pédagogiques au musée. Ça va de la maternelle au lycée, hein.
D'accord, donc le public c'est essentiellement des jeunes ou c'est pour un petit peu tout le monde?
Alors ça dépend des périodes. En période scolaire, on accueille essentiellement des classes plutôt de primaire, même si on essaye de faire des actions ponctuelles, notamment via des preuves de SVT pour des collèges ou des lycées. Et là, en période d'été, on assure des animations pour le grand public, familial, touriste.
Comment est-ce que vous définiriez la préhistoire?
Alors la préhistoire, elle se définit par rapport au fait que on est en rapport avec l'homme. C'est souvent malheureusement une confusion entre la terminologie préhistoire, c'est avant l'écriture, après histoire, avant l'histoire donc. Et malheureusement dans beaucoup d'ouvrages ou dans l'inconscient des gens, on fait remonter ça jusqu'à l'origine de la vie sur la Terre. Et nous on fait bien la différence entre ce qui est de la paléontologie et qui est du ressort des paléontologues et qui vont étudier tout ce qui est avant l'homme pratiquement. Jusqu'à un moment donné où l'homme est présent sur la Terre et on va donc parler à ce moment-là de préhistoire pour toutes ces longues périodes du temps où l'homme n'a pas d'écriture. Alors ça pose un souci, c'est quand est-ce qu'on fait commencer la préhistoire, quand est-ce qu'on peut parler d'homme? Et comme l'écriture n'apparaît pas partout en même temps sur toute la planète, en fonction des pays où on se trouve, l'arrêt de la préhistoire et donc le début de l'histoire n'est pas forcément aux mêmes dates.
Alors grosso modo, quelle date est-ce qu'on pourrait donner pour... une moyenne pour la fin de la préhistoire?
Alors, c'est un gros souci, c'est qu'on peut parler des toutes premières écritures il y a 3000 ans en Mésopotamie, comme on pourrait dire qu'encore à l'heure actuelle, dans certaines populations dites entre guillemets primitives, hein, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, des populations qui ont eu encore des modes de vie très proches pour certains, avec des outils en pierre, par exemple en Nouvelle-Guinée, et qui ont pratiquement pas l'écriture il y a quoi, une vingtaine d'années. C'est vrai qu'actuellement, les explorations, les découvertes, les échanges font que ces populations sont passées de la préhistoire au XXIe siècle en à peine une génération.
En ce qui concerne les hommes préhistoriques, on entend parler par exemple de Lucie, on a Toumaï également. En réalité, on parle de quelles espèces lorsqu'on se réfère aux hommes préhistoriques?
Alors, ça c'est le gros souci des paléontologues, c'est que quand ils vont aux paléoanthropologues pour être plus précis, ils vont définir des critères d'espèces uniquement à partir des squelettes. Alors que tous les naturalistes utilisent le domaine du vivant et différencient notamment par le fait qu'une même espèce, c'est parce qu'ils sont interféconds entre eux. Malheureusement, nous, on n'a plus que le squelette. Donc ça va être sur des critères anatomiques que vont se faire ces distinctions et que les classifications se font en fonction de la morphologie, souvent du crâne. C'est le principal élément qui va déterminer les différenciations entre espèces. En fonction du volume du cerveau, de la face plus ou moins avancée, hein, plus ou moins prognacte, la présence de bourrelets susorbitaires, la morphologie des dents aussi, et puis surtout, ce qui va faire la grande distinction par rapport au grand singe, c'est la position du trochocipital pour déterminer la pibétie. D'où le fait, ce qui est assez étonnant, hein, on prend Toumaï, il a plus de 7 millions d'années, le crâne montre une trochocipital assez centrée qui ferait qu'il serait bipède. Et quand on réfléchit bien, il y a plus de temps qui sépare Toumaï de Lucie que de Lucie à nous. Malheureusement, il y a des grands vides au niveau des fossiles entre Toumaï et Lucie. À part quelques restes par-ci par-là de squelettes, on n'a pas beaucoup d'éléments. Donc il y a certainement encore beaucoup de découvertes à faire, peut-être pas forcément dans les mêmes régions qu'on pensait en Afrique, hein, puisque Toumaï en plus est au Tchad, dans un endroit où on n'attendait pas de trouver ce type de fossiles. Jusqu'à maintenant, là, principalement depuis les années 1920, où on a ce premier squelette en Afrique du Sud, hein, d'où le nom d'Australopithèque, singe du Sud, jusqu'en Éthiopie, on a toute cette longue rift vallée, des dizaines de squelettes qui ont été découverts depuis et qu'on a classés en différentes espèces d'Australopithèques d'ailleurs, des paranthropes, puis des Homo habilis, etc., etc.
Alors juste pour faire un petit résumé, Toumaï, on a encore du mal à le classer. Ensuite, c'est quoi qui vient? C'est les Australopithèques, Homo habilis, et
Tout à fait, ouais.
puis c'est quoi les petits suivants?
Alors, dans les Australopithèques, il faut se rendre compte que maintenant on est à presque une dizaine d'espèces, et que même à un moment donné, on avait fait certains crânes très particuliers des Australopithèques robustes. Et même maintenant, les paléanthropologues les distinguent complètement en faisant une branche à part ce qu'on appelle les paranthropes. C'est vrai qu'ils ont une morphologie très particulière, avec une face et notamment des mâchoires très puissantes, mais qui ont principalement servi à écraser des graminées, à broyer des végétaux. Hein. Et qu'il y a autant de différences entre un gorille et un chimpanzé qu'entre un paranthrope et un Australopithèque gracile comme Lucie. Hein. Après, effectivement, on va se retrouver avec des individus qu'on qualifie d'hommes. Et toute la difficulté a été de distinguer, effectivement, par rapport à des crânes qui sont peut-être un tout petit peu plus gros, et le fait probablement qu'on commence à avoir de l'alimentation carnée, de l'utilisation d'outils. D'où le nom de ces Homo habilis, hein, ces hommes habiles à tailler la pierre. Et maintenant qu'on a des découvertes d'outils de plus en plus vieux en Afrique, on se demande qui est l'auteur de ces outils. Et il est fort à parier que des Australopithèques savaient tailler des pierres, ce qui, encore quelques années, n'était pas envisageable pour les chercheurs. De plus, maintenant qu'on regarde l'éthologie des grands singes, on se rend compte que les bonobos, les chimpanzés, ont toute une panoplie d'outils en bois, en pierre, qu'ils utilisent parfaitement bien. Par contre, jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'on ait des chimpanzés qui taillent des pierres, par contre. Ça arrivera peut-être un jour.
Qui sait. Après tout, ils ont des mœurs quand même assez particuliers, donc
Tout à fait,
sont assez
voilà. Après,
curieux.
voilà, et ils ont des comportements très sociaux, toute une hiérarchie, un langage très développé, et donc l'utilisation de brindilles pour chercher des termites, de pierres pour broyer des noix, de bâtons pour se défendre. Il y a même certains types de chimpanzés qui chassent. On ne s'attendait pas à ce qu'ils mangent de la viande, hein, et qu'ils chassent. C'est assez étonnant.
Ouais, puis l'usage des outils en bois, en fait, ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui a été conservé comme outil
Tout à fait.
par le registre fossile, quoi.
Complètement. Là, on n'a plus que les éléments minéraux. Tout ce qui est organique a disparu. Et on serait, à mon avis, surpris si on avait la chance de retrouver tous ces éléments-là aujourd'hui. Ouais. Enfin, en tout cas, de la variabilité et de la grande quantité de choses qui a dû être utilisées en bois. Non, malheureusement, aujourd'hui, on a complètement disparu. Tous ces éléments ont disparu.
Alors on va juste faire un petit point sur l'évolution de l'homme, parce que quand on parle évolution de l'homme, il y a un schéma qui vient immédiatement dans la tête des gens. C'est
Tout à fait, ouais.
ce schéma du petit singe qui se redresse, et ensuite on voit un Australopithèque, ensuite on voit un Habilis, on voit un Erectus ou un Ergaster, et puis enfin on termine par Homo sapiens. Alors qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ce schéma-là?
Alors, c'est vrai qu'il est en plus mis à toutes les sauces, toutes les publicités. Il en existe des dizaines d'exemplaires, des fois avec beaucoup d'humour pour certains. Et malheureusement, ils sont tous entièrement faux dans la façon dont, d'une part, on voit quelque chose de uniquement linéaire, et qu'une espèce succéderait à l'autre, et qu'en même temps se redresserait progressivement pour arriver à un stade complètement vertical. C'est un schéma très 19e siècle essayer de mettre des chaînons manquants dans l'évolution du singe à l'homme. Un singe ne donnera jamais un homme. On le voit bien que les mêmes Toumaï et les Australopithèques qui sont déjà parfaitement bipèdes. Donc déjà, il faudrait que tous ils soient bien droits et debout, et pas courbés. Et qu'après, en plus, ils sont pas linéaires, mais ça fait vraiment un buisson. Il y en a plein d'espèces comme ça qui, des fois, vont cohabiter et vivre dans les mêmes espaces-temps. Et puis, certains vont évoluer, d'autres vont disparaître. Et ce qui est troublant, c'est qu'aujourd'hui, on a beau regarder sur la planète, on n'est plus qu'une seule espèce. Alors, très dynamique au niveau reproduction, puisqu'on est plus de 7 milliards, mais on est tout seul. Alors qu'il y a 50 000 ans, Néandertal était une autre espèce contemporaine de la nôtre. Donc, c'est ça aussi qui est troublant, de se dire qu'à un moment donné, on était plusieurs espèces d'hominidés, et parfois avec beaucoup de différences. Et aujourd'hui, même si on a des couleurs de peau, de cheveux, des yeux qui changent, au niveau squelette, il n'y a pas grande différence, à part des gens très pointus qui arriveront à dire celui-ci est plutôt de type caucasien et celui-là de type plus africain. Et encore, quand on voit, elle date un peu maintenant cette exposition, mais l'exposition de tous parents, tous différents, tous les squelettes alignés les uns à côté des autres qui est dans cette exposition, on serait bien incapable de dire de quel type humain il s'agissait. Pour pas employer surtout le mot de race, parce que ça aussi c'est encore un gros souci de vouloir distinguer dans la population humaine des races qui n'existent pas.
Justement, quand vous parlez de la coexistence de différentes espèces, il y a encore environ 20 000 ans ou 40 000 ans, je ne sais plus, il y avait Néandertal et Sapiens qui cohabitaient probablement.
Tout à fait, 40 000 ans, ça c'est sûr. 20 000 ans, malheureusement, on n'a plus du tout de traces de Néandertal pour ces dates-là. Donc il a déjà certainement complètement disparu. Alors 40 000 ans, c'est un élément charnière dans cette histoire de l'humanité, c'est que Homo sapiens commence à envahir des territoires sur lesquels vivaient les Néandertaliens. Et toute la grande question a été, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi on ne retrouve plus de restes de Néandertaliens après? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc pendant un temps, ça a été le remplacement, l'évitement, le massacre éventuellement. Et maintenant, les analyses ADN qu'on peut avoir montrent qu'il y a eu au moins pendant un temps une cohabitation et surtout un métissage qui s'est fait à certaines périodes. Chose qui n'était pas tellement envisageable et envisagée. Ou, comme c'est le cas malheureusement pour certaines barrières génétiques au niveau des animaux, des espèces qui étant trop éloignées les unes des autres, vont faire que quand on arrive à les faire se croiser aujourd'hui de façon un peu artificielle entre un lion et une tigresse, on arrive à avoir des petits mais qui sont stériles. Est-ce que ce phénomène-là aurait pu être évoqué entre Néandertal et Sapiens qui se sont quand même séparés il y a plusieurs dizaines de milliers d'années? On aurait deux espèces qui auraient évolué parallèlement et qui seraient devenues pas complètement interféconds ensuite. Là, visiblement, le reste de gènes qu'on peut avoir dans nous de Néandertaliens laisserait supposer qu'il y a eu une interfécondité sans problème.
L'homme de Néandertal, ce serait une espèce différente de l'Homo sapiens.
Tout à
Par
fait.
Contre, l'homme de Cro-Magnon, c'est un Homo sapiens.
Ah, c'est un Homo sapiens. Le nom est devenu célèbre à cause de l'abri Cro, qui veut dire le trou en langue en Dordogne. On appelle les crocs tous les petits trous dans les cavités, dans les grottes. Et Magnon était le nom du propriétaire de la grotte. Donc, Monsieur Magnon a donné son nom à ce squelette qui est devenu très célèbre à l'époque, qui était le premier squelette de type Homo sapiens trouvé contemporain dans ces industries particulières et surtout de tout l'art préhistorique qu'il y avait dans la vallée de la Dordogne et de la Vézère.
Quand on s'intéresse à la survie et à ce qu'on appelle le bushcraft, parfois on fait appel à des techniques primitives pour fabriquer des objets.
Tout à fait.
Par exemple, Lod Sporen, il fabrique parfois des haches inspirées de ce qui se faisait... de ce qui se faisait bien avant.
Tout à fait, oui.
Donc, les premiers outils, en fait, qu'est-ce qu'on considère comme étant les premiers outils de l'homme ou du moins des hominidés?
Alors, c'est ce qu'on va pouvoir interpréter dans les fouilles archéologiques comme étant une transformation volontaire par l'homme. Donc, c'est souvent des pierres qui ont été fracturées intentionnellement pour chercher des tranchants. Alors, tranchants dont on n'a pas toujours forcément la fonction derrière. Casser un os pour récupérer la moelle, par exemple, ça c'est vrai que c'est extrêmement difficile à faire avec les dents, si on veut essayer. Hein. On n'est pas un carnivore avec des mâchoires puissantes comme une hyène pour pouvoir broyer un os. Ça peut être un instrument pour découper du bois, donc on va essayer de se faire un épieu pour la chasse ou pour se défendre, ou aussi penser à déterrer des tubercules dans le sol pour aller chercher des racines comestibles. Notamment en période de sécheresse, ça peut être intéressant d'avoir un instrument, un bâton à fouir pour creuser, qu'il faut appointer, découper, etc. Donc c'est pour les chercheurs souvent des galets qui ont été fracturés intentionnellement, où on voit les traces de percussion et on voit qu'il y a eu des enlèvements intentionnels pour faire ces tout premiers outils comme ça, dans lesquels on va avoir des pierres qui ont été sélectionnées souvent parce qu'elles peuvent se casser, et que d'autre part, quand la fracture est obtenue, elles offrent un bord suffisamment tranchant pour pouvoir découper et travailler avec. Ce n'est pas la propriété forcément de toutes les roches, à la fois de pouvoir se casser comme il faut, de façon intentionnelle, et qu'en même temps, elles offrent des tranchants efficaces.
Et donc ces premiers galets aménagés, on les fait remonter à qui? Australopithèque?
Ben maintenant, avec des datations sur certains sites en Afrique, là dernièrement, une équipe française a trouvé, je crois, près de 3 millions d'années, au niveau des couches géologiques dans lesquelles étaient ces pierres, des outils, et 3 millions d'années, ben, il y a que des Australopithèques connus. Donc, même si on n'a pas la main de l'Australopithèque qui tient l'outil, à moins de trouver une nouvelle espèce, mais il est fort probable que certains Australopithèques ont commencé à fracturer des pierres, hein. Ce qui n'est pas complètement aberrant quand on suppose qu'ils ont pris des pierres pour fracturer, pourquoi pas des noix, des choses, et se rendre compte qu'une fois que la pierre, en tapant un peu contre une autre, elle se fracture, on obtient un tranchant, se rendre compte que ça devient un objet coupant qu'on va pouvoir utiliser et associer ça après à un travail précis. Hein. Ce qui est un peu troublant, c'est que les dents d'Australopithèque ne montrent pas forcément qu'il y a eu beaucoup d'alimentation carnée. Hein. Contrairement aux Homo habilis plus tard. Donc il y a certainement des outils, comme je vous disais, ça peut être très bien des bâtons à fouilles, hein. On va chercher des tubercules, donc on se nourrit de végétaux mais qu'il faut déterrer. Et ça, c'est peut-être le propre de ces individus qui fait que des modifications de l'environnement et du climat demandent des adaptations pour pouvoir survivre. En milieu sec, ben c'est vrai que si on a beaucoup moins de végétaux à manger, il faut s'intéresser à autre chose. Autre chose, c'est soit des choses qui sont enfouies dans la terre qui résistent, type tubercule, ou alors c'est trouver des animaux déjà morts par la sécheresse ou de fauves qui ont chassé, qui laissent des carcasses, et commencer à s'intéresser à d'autres produits à base de viande. À ce moment-là, bon, il faut pouvoir découper, broyer un os. Ça, il faut des instruments que la main ou les dents ne peuvent pas accomplir, des gestes de ce type-là.
Donc on a des premiers outils comme les galets aménagés, les choppers, qui sont grosso modo assez grossiers, puis petit à petit ça va se
Tout à fait.
raffiner avec des tailles de silex. Qu'est-ce qu'on appelle en fait l'industrie lithique?
Alors, l'industrie lithique, c'est ce qu'on va définir pour une période, c'est tout ce que l'homme a produit de façon intentionnelle pour développer un outillage en pierre. Donc, une industrie en pierre taillée, qui, en fonction des périodes et des types humains, bah, évolue au cours du temps. Ce qui fait qu'effectivement, on va parler de choses très simples au départ d'industrie chopper, donc tous ces galets taillés, aménagés, ou des éclats qu'ils ont façonnés, pour après aboutir à des choses beaucoup plus perfectionnées et efficaces comme bah, les bifaces, hein, qui sont vraiment un outil qui marque une très longue période de la préhistoire, hein, avec après des techniques où là, on va chercher des produits d'éclats avec des formes particulières, on va prédéterminer. Quand on prépare le bloc du silex et quand on tape des enlèvements et obtenir des grands éclats ou des pointes, ça c'est une technique par exemple la méthode Levallois qu'on connaît bien utilisée par Néandertal. Et avec l'Homo sapiens, même si Néandertal en a fait un petit peu, c'est de la production standardisée de lames de silex. Dans un seul bloc de silex, pouvoir en préparant le bloc sortir à la suite 10, 15, 20 lames. Qui sont autant de produits efficaces, mais qui en même temps peuvent être transformés en outils. Donc, d'un support qui est une lame, elle va servir de base pour faire des grattoirs, des burins, des becs, des perçoirs. Vraiment, pour à chaque fois qu'il y a un besoin précis, je dois faire un trou, je dois découper une baguette d'os, il faut l'outil adéquat pour mieux travailler ces matières-là. Et donc, on a le support qui, en plus, est léger, fin, qu'on peut transporter facilement, c'est lame de silex. Faut pas oublier que ce sont des gens qui sont mobiles, qui ne peuvent pas se transporter des dizaines de kilos de pierre avec eux. On produit quelques lames, on les utilise sur place et quand on part, on en prend quelques-unes. Quand on arrive à l'endroit, on a ce qu'il faut pour travailler et on trouve la matière première pour continuer à en produire d'autres. Donc souvent, ce qui est bien pour les archéologues, c'est que sur un chantier de fouilles, on va trouver quelques lames de silex qui ne sont pas locales, que certainement les restes de ce que les gens ont amené avec eux. Et toute la logique d'un archéologue, c'est se dire, tiens, ce silex, d'où il vient, pour savoir d'où viennent les gens, ou avec qui ils ont échangé éventuellement. Et petit à petit, reconstituer ainsi des cheminements de migration de population sur un territoire, en fonction à la fois des points d'eau qu'ils trouvaient, des grottes, des gîtes de matières premières, et comment, tout au long de l'année, ils vont se déplacer sur un territoire précis qu'ils connaissent. et qui savent qu'à tel endroit, à tel moment, il y a telle ressource alimentaire ou telle ressource en matière première accessible. Ça montre aussi un peu à l'inverse souvent cette image de l'homme préhistorique qui erre, qui essaye de survivre à une nature hostile, alors que ce sont des gens qui vivent et qui maîtrisent assez bien leur environnement et leur connaissance de tout ça.
Et justement, plutôt que de errer dans la nature, on les appelle les chasseurs-cueilleurs. Alors, est-ce qu'ils sont plus chasseurs ou est-ce qu'ils sont plus cueilleurs au final?
Ben ça, c'est encore, on retombe dans le même problème des conservations, hein, c'est que malheureusement, la cueillette laisse pas beaucoup de traces. La cueillette aussi, elle est tributaire du climat. Quand on est en période glaciaire, il n'y a que très peu de moments dans l'année où on peut cueillir et se nourrir de végétaux. Et donc, les archéologues, ce qu'ils trouvent essentiellement, ben, c'est les restes d'animaux chassés. Hein. Même si parfois, sur certaines traces d'outils en silex, on voit qu'il y a eu de la découpe de végétaux. Mais à part quelques éventuellement choses qui auraient pu se carboniser et conserver, de type noisettes, choses comme ça. On n'a pas grand-chose, comme on pourrait le dire, à se mettre sous la dent, hein, pour ces périodes-là. Alors là, bien sûr, on parle de période de chasseurs-cueilleurs. Pour des époques un peu plus récentes où l'homme va être agriculteur-éleveur, on a des nouvelles façons de vivre et une conservation des fois un peu meilleure et des traces qui montrent qu'il y a une part de production déjà d'alimentation via l'agriculture, mais aussi de cueillette. Et ça, on en a un peu plus de traces pour ces époques récentes.
Pour revenir sur les outils, donc il y a un outil qui est très célèbre, un outil de silex généralement, le biface. C'est un
Tout à
peu
fait.
le couteau suisse de la préhistoire, c'est ça?
Bah, c'est vrai que cet instrument qui n'est pas extrêmement difficile à façonner, hein, puisque si on a le bon bloc au départ, on fait des enlèvements alternativement d'un côté et de l'autre, d'où ce nom de biface, un taillé sur les deux faces, pour dégager un objet qui a souvent une forme assez géométrique. Déjà, il y a une recherche de la géométrie dans la pierre. Certains esthétismes, dans certains cas même, on voit qu'ils ont des choses assez bien faites. Et il y a un tranchant périphérique sur le bord et une pointe souvent dégagée. Donc effectivement, il tient assez bien en main. Il a des côtés tout coupants, mais aussi raclants, parfois perforants pour certains. Donc c'est vrai qu'on l'associe assez vite à un instrument polyvalent, facile à transporter, à manier, qui peut découper, percer, gratter, scier. Donc un peu effectivement entre guillemets, le couteau suisse préhistorique.
Et ça, il est façonnable uniquement dans le silex.
Alors non, le silex, c'est une matière première abondante et fréquente dans nos régions, mais il y a des pays ou certaines régions en France où il n'y a pas le silex et ils ont quand même taillé des bifaces. Il y a de très beaux bifaces en Afrique, dans des roches basaltiques, volcaniques, qui se taillent et qui permettent de faire des objets quand même efficaces. Et c'est un objet effectivement qu'on retrouve pratiquement sur tous les continents. Il n'y en a pas beaucoup en Asie, bizarrement, mais c'est un instrument marqueur d'une très longue période du paléolithique, hein. Essentiellement Homo ergaster et Erectus, même si Néandertal a fait des petits bifaces parfois encore, c'est assez marrant.
On part d'un bloc de silex, on le taille, donc ça produit des éclats, ça produit des chutes, et petit à petit, il me semble que nos ancêtres commencent à récupérer ces chutes.
Oui, alors c'est vrai que ça peut être aussi complètement opportuniste. Hein. Le biface, effectivement, on le façonne, mais il y a aussi des éclats qui tombent et qui sont tranchants, qui peuvent être utilisés, bien sûr. Hein. D'ailleurs, c'est un peu le souci aujourd'hui, c'est qu'on a des collections anciennes où les gens ont ramassé les belles pièces et les beaux bifaces sans s'intéresser à tout ce que les déchets qui pour eux n'étaient pas intéressants, alors qu'aujourd'hui, les préhistoriens conservent vraiment tout quand ils ont la chance de trouver des ateliers de façonnage, de fabrication de bifaces. Effectivement, on a les phases de préparation et on s'aperçoit que certains des éclats ont parfois aussi été utilisés. Hein. C'est vrai que ça serait aberrant de penser qu'on fait qu'un seul outil qu'après tous ces déchets qui sont pourtant qui offrent des parties tranchantes peuvent être facilement utilisés. Un peu comme avec les chopeurs, hein. Souvent on s'intéressait aux chopeurs aux galets taillés sans regarder les éclats des chutes qui en provenaient et qui pourtant sont aussi une matière première intéressante.
Alors, il y a un autre outil en silex, moi, qui m'a toujours fasciné. Alors, outil, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un outil. C'est ce qu'on appelait les feuilles de laurier.
Alors, tout à fait, oui. Alors, ça, c'est un outil typique de l'Homo sapiens, hein, en plus qui est très marqué culturellement sur une période assez courte dans le temps, qui correspond au maximum glaciaire qu'on appelle le Solutréen. Et chose étonnante, c'est le raffinement du biface à le pousser à l'extrême. jusqu'à en faire une feuille de 5 mm d'épaisseur, parfois de très grandes dimensions. Il y a un site, Volgu, je crois, qui est en Saône-et-Loire, hein, qui a livré de très grandes feuilles. C'est un peu le chef-d'œuvre du tailleur, quelque part. C'est extrêmement difficile à tailler. Il y a peu aujourd'hui de personnes qui arrivent à refaçonner de la même façon. Donc, effectivement, cet objet-là qui pourrait être un très beau couteau, hein, mais on l'utilise pas tous les jours. Enfin, ça semble étonnant. En tout cas, certaines grandes feuilles de laurier font plutôt un objet de prestige qu'on porte ou alors qu'on utilise peut-être dans certaines pratiques. Alors, je ne vais pas parler de couteau sacrificiel parce qu'on n'en a aucune preuve, mais ça peut être pour certaines cérémonies de rites ou autres qu'il y a ces objets-là.
Ouais, parce que c'est quelque chose de vraiment impressionnant, parce que on se dit que c'est quand même taillé dans de la roche, dans du silex, et
Tout à fait.
ça pourrait être transparent, quoi, tellement c'est fin.
Ah, dans certains cas, oui, le silex peut être translucide et puis ça tombe par terre, ça casse. C'est tellement. Le silex étant assez proche du verre, plus on va l'affiner, plus il y a des risques effectivement de brise et de casse de ces objets-là. Alors c'est marrant parce que comme c'est le maximum de l'époque glaciaire, jusqu'à il y a quelques années, on ne pensait pas qu'il y ait des sites solutréens au nord de la Loire, tellement il faisait froid à cette époque-là que la banquise était quasiment à hauteur de la Grande-Bretagne. Et là, on a deux sites en Île-de-France qui ont livré des morceaux de feuilles de laurier. Donc, il y a eu des incastades de solutréens qui sont partis un peu plus au nord, peut-être à la faveur de certaines conditions un peu de radoucissement de climat, et qui ont taillé quelques feuilles de laurier dans le bassin parisien. Et notamment, voilà, pas très loin de Nemours, il y a un site qui a livré même des genres de structures un peu d'habitat, des bois de renne qu'on a retrouvés. Montre bien les conditions froides de cette période-là, avec le renne présent, et des tailleurs de feuilles de laurier, alors brisées sur place. Et visiblement, on a uniquement les ratés de production, ce qu'ils n'ont pas réussi à tailler jusqu'au bout et qui ont cassé en cours de fabrication.
Une autre maîtrise qui a été quand même capitale dans l'évolution des espèces, c'est quand même l'évolution des techniques de feu, comme
Ah, tout
la
à fait.
découverte. Je suis désolé!
C'est la fin de cette première partie d'entretien avec Jean-Luc Rieux. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question du feu, en quoi est-ce que cela a été décisif pour l'évolution de l'homme. Il nous expliquera également quelles activités il propose au musée pour le public, ainsi que un petit conseil de lecture comme d'habitude. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Nature Aventure Survie ou sur le blog officiel natureaventuresurvie.blogspot.fr. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire pour m'encourager à continuer ces podcasts. Bonne fin de semaine et bon bushcraft!